Chapitre 9. Trévis, enfermé dans le sac de marin derrière son siège, Cornell jouant les prisonniers sur la banquette arrière, Luther roulait à vive allure, sans se soucier des limites de vitesse. Il comptait sur les lettres FBI qui s'étalaient en gros sur les portes et le toit du Suburban pour ne pas être arrêté. Le désert brûlant s'étendait à perte de vue jusqu'aux montagnes qui l'entouraient de tous côtés, et il régnait à bord du véhicule une atmosphère oppressante, comme si un danger imminent les guettait. Jane n'avait jamais acheté un ticket de loto ou glissé une pièce dans la fente d'une machine à sous. Guidée par son instinct, elle avait l'intuition de ses chances de succès ou d'échec chaque fois qu'elle entreprenait une mission. Quitte à jouer, autant mettre toutes les chances de son côté et ne laisser aucune place au hasard en pipant elle-même les dés. Elle préparait ses opérations longtemps à l'avance, en réglant dans sa tête jusqu'au moindre détail. Mais une fois qu'elle se trouvait au pied du mur et que tout était en place, elle se fiait essentiellement à son entraînement et à son intuition, prête à tirer profit des situations à mesure qu'elles se présentaient à elle. Elle ne s'autorisait pourtant jamais à juger de l'efficacité d'un plan en cours d'opération. Plus elle mettait de distance entre le refuge de Cornell et plus elle se rapprochait du point de rendez-vous avec Bernie, plus elle sentait monter la tension. Jane n'était pas superstitieuse. Aucun miroir brisé, aucun chat noir, aucune salière renversée ne la mettait mal à l'aise. Mais elle savait pourtant qu'en dépit de sa beauté infinie, le monde était un endroit sombre. Le mal guettait à chaque coin de rue, au soleil comme dans l'ombre. Et il fallait être inconscient pour ne pas le savoir. Elle s'était lancée dans une partie dont l'enjeu était crucial, pour elle-même comme pour son enfant et ses amis. Pour l'heure, ses préoccupations personnelles prenaient le pas sur le sort de l'humanité tout entière. Elle regretta de ne pas avoir avalé un comprimé contre l'acide gastrique. Elle avait les mains glacées, se sentait oppressée. Elle avait déjà perdu beaucoup, mais moins que Luther. Cornell était riche, mais il avait été privé d'une vie ordinaire avant même sa naissance. Il n'était pas question qu'on leur prenne quoi que ce soit d'autre. Le monde était un endroit sombre, mais elle refusait de se laisser avaler par l'obscurité avec ses compagnons. C'était hors de question. À l'approche d'une intersection, Luther freina afin de laisser passer trois jeeps Grand Cherokee surmontés de gyrophares, sirènes hurlantes, qui se dirigeaient vers l'ouest. Toutes portaient le sigle de la sécurité intérieure. Luther prit la même direction et découvrit, moins d'un kilomètre plus loin, la carcasse calcinée d'un pick-up Toyota dont le conducteur était mort brûlé vif. Deux minutes plus tard, il passait à côté d'une moto accidentée dont le propriétaire n'avait pas survécu, avant de voir, un peu plus loin, les restes d'une Mini Cooper encastrée dans un chêne.
« C'est quoi ce bordel ?»
grommela Luther. Lorsqu'ils tombèrent un peu plus loin sur une Honda rouge écrasée contre un mur, Jane saisit machinalement le fusil coincé entre ses jambes. L'arme, fournie par ses correspondants de Reseda, était une excellente contrefaçon iranienne de l'auto-assaut 12 mise au point aux États-Unis. Une longueur totale d'un mètre pour un canon de 33 cm, un chargeur à tambour de 32 balles capable de se vider en 6 secondes lorsqu'il était en mode automatique, un poids voisin des 7 kg. En lieu et place de chevrotine, le fusil était chargé de balles de calibre 12. Contrairement aux apparences, il était d'un maniement aisé grâce à un système à gaz capable d'absorber 80% de la puissance du recul, doublé d'un ressort de rappel prenant en charge 10% additionnel. Il se trouvait à 10 minutes de route du camping où les attendait Bernie.